bah, c'est la première nuit blanche de ma vie que j'ai fait avec mon frère. On s'est tué à double dash, genre jusqu'à 6 ou 7 heures, jusqu'à ce que ma mère descende et me dit, mais qu'est-ce que vous foutez, genre.
Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann.
Hola.
Et cette semaine, on reçoit Clément de Chabert. Clément est développeur web et c'est également un fidèle auditeur du podcast. Il est d'ailleurs le gagnant du concours qu'on avait lancé sur Instagram début février pour annoncer la saison 2 et présenter les nouveaux visuels créés par Nuit Vagab. Clément avait réussi à trouver dans le visuel de la saison 2 les différents jeux qui nous avaient respectivement marqués avec Yann. Comment tu vas aujourd'hui, Clément ?
Eh ben écoute, super, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Voilà, ça fait longtemps que je suis le podcast, donc c'est un plaisir de pouvoir participer aujourd'hui avec vous.
Trop trop cool. D'ailleurs, comment t'as découvert le podcast ? On en a parlé un peu en off, mais...
Bah alors ouais, c'est bah tout au début, vraiment, je pense première ou deuxième épisode, justement, bah Nuit Vaga qui vous avait fait le visuel de la première saison, tout de suite il avait riposte l'émission, puis quand j'avais vu voilà deux potes qui parlent de top 3 de jeux avec des invités, j'ai followé direct, quoi. Donc et puis voilà, on vous suit depuis un an et c'est toujours un plaisir d'écouter les différents invités qui sont toujours hyper variés, c'est hyper enrichissant d'écouter tout ça.
Mec, ça fait plaisir, merci beaucoup. Cool. Est-ce que d'ailleurs t'as un épisode qui t'a plus marqué qu'un autre ou pas?
Alors là, ouais, je peux faire un top 3, top 3 podcast. Non, bah, ouais, franchement, ils sont tous hyper enrichissants. Après, j'ai mes petites affinités parce que c'est hyper marrant parce qu'il y a plein d'invités ou, enfin, plein. Il y a quelques invités que je connaissais déjà d'avant. Et d'un coup, je les vois pop dans votre émission, me dire, mais c'est absolument incroyable. Bah, là, récemment, Well la mort. J'adore vraiment, je suis trop trop fan de son taf et du coup de l'avoir dans votre émission, j'étais là mais c'est trop bien. Il y a aussi Roger aussi qui est comme bien connu comme pour les auditeurs de rap. Donc ouais, c'était assez incroyable. Bah puis Nuit Vaga aussi que je suivais du coup avant de vous connaître. Et puis non, mais c'est marrant les types de profils. Et comme je sais plus dans quel épisode plutôt vous expliquez ça, que vous avez des profils qui sont pas forcément ultra gamers et qui sont dans des qui font d'autres choses dans la vie. Et du coup c'est hyper intéressant de voir tout ça, quoi.
Yep. Carrément. Mais justement, en parlant de personnes qui font d'autres choses dans la vie, parle-nous un peu de toi, ouais.
Ouais, bah alors ouais, bah du coup moi j'ai 22 ans, donc je suis à la base j'ai fait des études de développement web, j'ai un petit peu bossé du coup après ça dans des boîtes, voilà, des éditeurs de logiciels, et puis globalement c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, mais voilà, je pense que le jeu vidéo ça fait partie intégrante de ma construction en tant que personne, et du coup le je pense que j'ai toujours eu envie en fait de développer des jeux, du coup naturellement je me suis orienté vers ça et du coup, en janvier 2020, on a monté une petite équipe de bénévoles avec des connaissances pour justement monter en compétences dans la création de jeux. Et puis, on a fait pas mal de projets. On n'a rien sorti, mais on a surtout appris à travailler ensemble, à voir ce qu'on arrivait à faire, les désillusions, les chutes, etc. Mais faut forcément passer par là. Et puis, du coup, cet été, moi, je quittais mon job. Deux autres collègues avec qui on était vachement porteurs de l'équipe, à peu près pareil et du coup on a décidé de se lancer du coup dans un tout nouveau projet réalisable en tout cas, et puis d'essayer de monter du coup une structure autour de ce projet-là, d'aller chercher les financements, d'aller chercher un éditeur et puis de constituer une équipe et puis d'aller de mener le projet à bout et puis de le publier, de le distribuer, etc.
Trop, trop cool.
Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu les plans. On est en plein dedans. Là, on est en train de prototyper notre jeu. Et puis là, on est embarqué au moins jusqu'à fin 2023. Pour l'instant, on vise une sortie premier trimestre 2024. Et on s'appelle Seed Games.
Trop bien. Voilà. Bah ouais, tu nous diras et on fera en sorte de bien partager tout ça.
Trop bien. Merci les gars. C'est cool.
Avec plaisir. Bah, sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors pour le premier jeu, Zelda The Wind Waker, donc jeu d'action-aventure développé et publié par Nintendo, c'est sorti en 2003 sur GameCube, et ça succédait à Majora's Mask, sorti en 2000 sur Nintendo 64. D'ailleurs, l'une des particularités de ce Zelda, c'est que le style graphique se démarque clairement avec l'aspect un peu dessin animé et l'utilisation du cel shading. Du coup, toi, est-ce que c'est le premier Zelda auquel tu as joué ou pas du tout?
Ouais, c'est bah alors c'est donc pour la l'histoire, c'est un de mes tout premiers jeux presque auquel j'ai
Ok.
joué, en tout cas le premier auquel vraiment je me suis complètement plongé dedans et je me suis dit ok, c'est les jeux, c'est incroyable. Et bah donc 2000 donc 2005, donc Noël 2005, moi j'ai du coup 6 ans. J'ai un grand frère qui a 6 ans de plus, donc à l'époque il avait 12 ans. Lui avant ça il avait voilà une Game Boy, je comprenais pas grand chose, mais bon voilà, je voyais qu'il jouait à ça. Moi c'était l'époque Cap là, Playmobil, Lego quoi, globalement. J'avais pas encore beaucoup de jeux vidéo dans ma vie. Et puis voilà, donc Noël 2025, il arrive à faire céder mes parents pour qu'il lui achète une GameCube. Et avec cette GameCube, Mario Kart Double Dash et Zelda Wind Waker. Et donc là, bah littéralement, je pense, bah c'est la première nuit blanche de ma vie que j'ai fait avec mon frère. On s'est tué à Double Dash, genre jusqu'à 6 ou 7 heures, jusqu'à ce que ma mère descende et me dit, mais qu'est-ce que vous foutez, genre. Et donc voilà, surtout ouais, Double Dash, bah à l'époque, pour ceux qui connaissent, on pouvait du coup jouer à deux sur le même véhicule. Du coup voilà,
Très très bon, ça
moi
c'était magnifique.
qui était un petit enfant de 6 ans qui comprenait pas tellement comment utiliser une manette, c'était parfait quoi, j'avais juste à regarder, lancer des objets. Et puis du coup Wind Waker, puis je vois mon frère un petit peu jouer, et du coup bah pour l'anecdote, Wind Waker c'était Peggy 7 et moi j'avais 7 ans, et ma mère qui, du coup qui était assez stricte par rapport à ça, c'était un peu nouveau pour elle les jeux etc, elle dit ah bah non, c'est écrit interdit au moins de 7 sur la boîte, bah du coup tu vas attendre d'avoir 7 ans pour y jouer.
Oh non.
Et du coup bah je regardais un petit peu mon frère jouer. Et puis comme voilà, c'est mon anniversaire, c'était assez peu de temps après, j'ai pu enfin y mettre les mains dessus dès que j'avais 7 ans, et là commencer vraiment ma partie et me plonger complètement là-dedans. Et là ça a été vraiment ouais, ça a été un peu une révélation quoi, vraiment bah ce que Well a très bien décrit dans son épisode, où c'est effectivement c'est ce sentiment de liberté quoi qui est assez exceptionnel. Et puis surtout moi ce qui m'a vraiment marqué avec ce jeu, c'est que moi petit enfant de jeune enfant de 7 ans qui joue à un Zelda où le héros justement c'est aussi un jeune garçon qui est sur son île, qui vit avec sa petite sœur, qui vit avec sa grand-mère et qui va être embarqué dans une histoire absolument incroyable. Et du coup bah tout de suite moi je me suis totalement identifié à cet enfant, enfin ce héros en tout cas. Et du coup ça m'a vachement marqué. Ça m'a vachement marqué, et après ouais j'y ai joué, je pense que c'est un jeu ouais je l'ai refait plein de fois, il m'a suivi un peu toute ma vie quoi, et même de temps en temps j'aime bien y retourner dessus quoi.
Dans ce Zelda, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont marqué plus que d'autres, genre dans vraiment l'histoire ou dans certaines missions ou boss ou autre?
Ouais, bah c'est tout est marquant. Honnêtement, tout est marquant. Bah justement, bah ouais, le vraiment, ce que je décrivais avant, c'est vraiment le fait de s'identifier au héros quoi. Moi, ça, j'étais totalement la cible pour du jeu quoi, globalement. Où bah tout de suite je me suis plongé dans ce personnage, dans cette histoire où voilà t'as un gars, enfin tu commences l'histoire globalement, tu vis ta petite vie paisible sur ton île, tu fais des petites tâches un peu à la con, tu vas aider le gars à retrouver ses cochons, et puis t'as cet événement où bah tout ton petit monde va s'effondrer, ta petite sœur va être kidnappée, et là ni deux, tu te poses pas la question et puis tu vas la sauver, et là t'es embarqué avec des pirates, tu sors vraiment. Si tu veux, pour moi Wind Waker c'est vraiment avant tout le propos, je trouve que c'est vraiment le fait de grandir, et ça parle énormément de maturité, où justement bah tu vas suivre un héros qui tout au long vraiment va être confronté à des épreuves. Après voilà, c'est vraiment le propos classique de ce genre d'épopée un peu héroïque quoi, mais en tout cas ouais, en tant que jeune garçon moi je me suis complètement identifié, à tel point qu'à l'époque je me disais mais C'est ça que je veux faire, quoi. Moi, je veux être ce Link, tu vois. C'est moi, c'est ça. Moi, je veux faire. Je veux aller sauver ma sœur et je veux sauver le monde. Et c'était ça à l'époque. Je te jure, à 7 ans, je me disais des trucs comme ça parce que ça m'a tellement marqué et je me disais, mais c'est magnifique, quoi. Et puis après, ouais, les vraiment les moments marquants. Bah, voilà, le premier donjon, la forteresse où là, t'as pas d'armes et tu dois t'infiltrer pour rejoindre Ganon. Et au final, ça se passe pas comme prévu. T'as toute la scène aussi avec celle-là, elle m'a particulièrement marqué, la scène où quand t'arrives enfin dans le château d'Hyrule qui est donc sous l'eau, et puis t'as tout ce passage où t'es dans la grande salle et t'as les monstres qui sont figés en pierre, c'est des statues de pierre, et je me rappelle déjà à l'époque, je me disais putain, ces trucs là faudrait pas que ce soit plus de pierre, quoi. Et puis effectivement plus tard tout se met à bouger et puis tu dois clean la salle, et puis ouais, ça c'est un truc qui m'avait vachement marqué. Et puis après les musiques, c'est vrai qu'elle en a parlé, les musiques elles sont absolument somptueuses. Je pense que du coup ouais, j'ai une histoire un peu particulière avec Zelda parce que du coup c'était vraiment Wind Waker mon premier, et après Twilight Princess qui a suivi, qui m'a énormément marqué aussi, et puis du coup j'ai pu rattraper un peu ce que j'avais pas fait avant, mais globalement ouais, les musiques, je trouve que c'est les quasiment le plus réussi, quoi, de tous les Zelda confondus. Je trouve qu'il y a vraiment cette sensation, ouais, voilà, quand t'es sur l'océan, là, avec ton bateau, que tu navigues, les musiques qui s'enchaînent, les musiques de boss, les musiques de donjon, la musique de la grand-mère aussi, je sais pas, elle est un peu particulière, mais il y a une musique quand tu vas retourner voir ta grand-mère, quand t'es dans sa maison, qui est assez, assez touchante. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais, il y a cette scène aussi qui m'a vachement marqué, où justement, bah, quand tu quittes l'île de départ sur laquelle t'es, et t'as ta grand-mère qui te fait coucou au loin quand t'es en train de partir. Et justement, bah, à l'époque, ouais, c'est hyper touchant ça. Et justement, bah, à l'époque, je descendais dans le sud avec mes parents voir ma grand-mère qui est à Nice. Et elle faisait ça, et quand on partait qu'on allait la voir 2 semaines et tout, et à chaque fois elle faisait ça, elle se mettait à son balcon et elle nous faisait coucou et du coup vraiment j'étais là, mais vraiment ce jeu il a été fait pour moi, quoi. C'était
l'impression de déjà vu,
c'est ça clairement. Donc ouais, non, trop de bons souvenirs, et puis ouais clairement, et donc voilà, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, c'est vraiment, ça fait partie de ma construction, quoi, ce jeu, vraiment inconsciemment, je pense, enfin consciemment ou inconsciemment, ça m'a vraiment appris pas mal de choses, ou vraiment, bah voilà, d'essayer de, voilà, de grandir à travers les épreuves de la vie. C'est ouais, ça m'a vraiment accompagné, je pense, pour toute la suite. Et puis voilà, enfin un très bon souvenir en tout cas, ce jeu, vraiment.
À l'époque, genre quand t'avais 7 ans, tu t'avais déjà un peu conscience de ça, ou c'est toi, en y revenant quelques années plus tard, tu le vois sous un œil différent?
Ouais, à l'époque, bah c'est vrai, comme je découvrais les jeux, je découvrais les jeux globalement à cette époque dans ma vie, ouais, c'était surtout, bah du coup, la GameCube avec ces jeux-là, Mario Kart, Mario Party, Zelda, mais c'était vraiment mon petit truc à moi, quoi. Tu joues solo, t'as ta petite aventure qui progresse, tu récupères tes nouveaux objets que tu utilises, enfin ouais, puis que t'es gamin, t'as 7 ans, putain, il y a des trucs, ouais. tu comprends rien de ce qui se passe, franchement. En plus je pense à l'époque, c'est quoi, t'apprends à lire à quoi, 6-7 ans, quelque chose comme ça, et encore, et voilà,
il y avait pas mal de textes,
il y avait ce passage aussi dans Wind Waker où tu dois récupérer des bombes et tu dois retenir une phrase qui est dite par un personnage pour la redonner, oui, plus tard pour rentrer dans le bateau. Et à l'époque, si tu loupais cette phrase, bah c'était mort. Je crois que tu devais la réécrire ou un truc comme ça. Et je me rappelle avoir recommencé des parties juste là-dessus. Ou même rester bloqué à des donjons parce que tu comprenais pas ce qu'il fallait faire, alors que c'était un truc évident, mais dans ton esprit de jeune, tu comprenais pas ce qu'il fallait faire. Donc ouais, je me rappelle que ça a été vraiment un jeu qui m'a pris du temps à l'époque. Enfin, je sais pas combien de temps j'ai dû le finir après, mais ouais, ça m'a pris du temps. Et après, ouais, j'avais toujours ce besoin d'y revenir, des fois juste naviguer, quoi, juste prendre le bateau, puis naviguer. Et ça vraiment je kiffais, mais ouais, C'était vraiment cette sensation de, ouais, de liberté, d'exploration, où t'es là, tu vois des îles un peu qui se distinguent à l'horizon, et puis tu te rapproches petit à petit, tu commences à distinguer ce qu'il y a sur l'île, une maison, un truc, des ennemis. C'est ouais, c'est vraiment et c'est là vraiment, c'est vraiment cette notion-là qui revient souvent et je pense qu'il va revenir dans la description des jeux là d'après. C'est vraiment l'appel de l'aventure en fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'a toujours fait vibrer et enfin notamment bah du coup grâce à Wind Waker, mais c'est vraiment ça quoi, cette envie d'aller explorer, d'aller découvrir quelque chose, ouais, d'éveiller sa curiosité. Ouais, c'est vraiment ça l'appel de l'aventure qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu avec Wind Waker et que j'ai retrouvé du coup tout au long de ma vie avec différentes œuvres.
Ben, enchaînant du coup maintenant avec ton deuxième jeu qui était Skyrim, donc The Elder Scrolls V, le jeu d'action développé par Bethesda est sorti en novembre 2011 sur PS3, Xbox et PC. Donc énorme succès critique. Il a été remasterisé en 2016-2017 pour sortir sur la nouvelle génération de consoles. Et comme l'indique le nom, c'est donc le cinquième volet de la série The Elder Scrolls après Arena, Daggerfall, Morrowind et Oblivion. Comment toi t'es arrivé à ce jeu et qu'est-ce que tu retiens quand on parle de Skyrim?
Bah alors ouais moi pareil donc bah ouais novembre 2011 moi j'ai 12 ans à l'époque je traîne beaucoup avec un pote qui a une Xbox 360 et moi à la maison bah j'avais que du Nintendo donc GameCube et puis Wii et du coup bah chez lui 360 on jouait à tous les trucs un peu du coup nouvelle génération les GTA les Mafia tous les trucs un peu voilà 11 ans enfin 12 ans c'était cool moi enfin moi je découvrais ça chez lui du coup surtout que lui il avait trois grands frères donc il avait un peu tous les jeux comme ça et puis bah ça du coup c'est le jeu dont on parlera après mais il y a eu du coup lui il avait Dark Souls vraiment à la sortie quand il était sorti en septembre 2011 donc quelques mois avant 2 mois avant Skyrim on n'y a pas joué tout de suite parce qu'on comprenait absolument rien et du coup mais déjà moi j'aimais beaucoup la fantasy lui pareillement et puis il me dit ouais putain, là, il y a un jeu qui va sortir. Tu peux choisir ta race. Tu peux être un homme lézard. Tu peux être un homme chat. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a plein d'armes. Il y a des magies et tout. En plus, c'est le cinquième d'une licence et tout. C'est incroyable. Il me montre le trailer, le truc. Enfin, tout de suite, moi, ça m'a parlé instantanément. Donc là, le truc sortait. Et puis ouais, du coup, j'ai tanné mes parents pour avoir une 360 pour le Noël qui suivait. Donc Noël 2011 et puis effectivement je reçois donc généreusement ma 360 avec donc Skyrim et Assassin's Creed Révélation et littéralement Assassin's Creed je crois que j'ai dû le mettre dans la console genre un an après tellement Skyrim ça m'a vraiment pris ouais clairement je me suis plongé complètement dans cette histoire où là vraiment c'est venu toucher quelque chose chez moi que je comprendrai un peu plus tard, qui est vraiment, je sais pas si ce terme est correct, mais c'est vraiment moi ce qui me plaît. Je suis vraiment, je dirais, un érudit des jeux. Vraiment, moi, explorer un lore, comprendre vraiment les rouages d'un monde, comment ça fonctionne, même si c'est quelque chose complètement fictif. Avant ça, j'étais déjà ultra fan de LOTR, de Warcraft aussi. J'étais assez jeune, on m'y a exposé, donc j'adorais vraiment les mondes hyper riches avec des personnages, des races, avec des histoires entre eux et tout. Et donc là, plonger dans l'univers des Elder Scrolls, ça m'a plu voilà dès la première minute hein, clairement
T'es servi là.
ouais clairement j'étais servi je me suis plongé là-dedans me créer mon gros orc en armure lourde avec une massue à deux mains clairement c'était vraiment mon truc et du coup voilà Skyrim bah là c'est presque tourné à l'addiction quoi le truc parce que je pense que c'est le jeu que j'ai plus acheté dans ma vie. Littéralement, j'ai dû l'acheter au moins 2 fois sur 360 parce que je l'avais offert à un pote à l'époque. Du coup, je l'ai racheté. Après, je l'ai racheté sur Xbox One quand je suis passé sur Xbox One. Après, j'ai rejoint mes potes sur PS4, donc je l'ai racheté sur PS4. J'ai dû l'acheter sur Switch. J'ai dû l'acheter sur PC. Je l'ai racheté aussi la Definitive Edition. Je dois juste pas avoir l'édition VR. C'est genre le seul truc que j'ai pas. J'ai dû l'acheter genre 6-7 fois. Mais c'est un problème, hein. Vraiment. Je me dis, mais qu'est-ce que je me vois l'acheter, me dire, mais qu'est-ce que tu fous? Et surtout, Skyrim, je pense que ça parlera à ceux qui sont vraiment addicts à Skyrim. C'est vraiment te faire chier à dire, ok, j'ai trop envie de Skyrim. Genre tous les ans, tu dis, oh, j'ai trop envie de Skyrim. Sauf que le jeu, tu l'as tué. Genre, t'as genre, je sais pas, 1500 heures dessus. Tu connais absolument tous les recoins. Il n'y a plus aucune surprise. Puis tu vas te faire chier à peut-être chercher des mods, créer ton personnage, et puis tu vas jouer 30 minutes, tu vas faire l'intro, et puis après, basta, quoi, tu vas arrêter ta partie. Ouais, globalement, moi, c'est ça qui m'arrive en ce moment. Du coup, j'ai vraiment une overdose, pour le coup, maintenant, de Skyrim. Mais du coup, ouais, ça m'a vraiment ouvert sur The Elder Scrolls. J'ai pas mal joué, du coup, après à The Elder Scrolls Online, quand c'est sorti. Très bon souvenir aussi là-dessus. Puis du coup, je suis allé explorer Oblivion, que j'ai adoré, vraiment, qui était aussi magnifique. Et ouais, Skyrim, ouais, vraiment chef-d'œuvre, hein. Honnêtement, chef-d'œuvre. Même s'il a, pas mal de fans qui se disputent de ça, quel est le meilleur The Elder Scrolls, mais voilà, tout se discute. Mais ouais, vraiment, à l'époque, Skyrim, c'était vraiment le premier, vraiment au gros monde ouvert, où voilà, tu choisis d'être ce que tu veux, quoi. Voilà, avec toute une mythologie, avec des dieux, machin, puis tu vas les rencontrer petit à petit dans le jeu, avec des quêtes, des guildes, des, voilà, tout un monde hyper riche, hyper organique, et ça m'a vachement plu, ouais, à l'époque.
Est-ce que, parce que là, je reprends là, quand t'as parlé de jeux que tu fais que acheter et racheter et racheter, ouais, et racheter, je trouve que ça, c'est un bon indicateur aussi de à quel point le jeu, il t'a marqué, que t'as l'impression, genre, juste, tu veux redonner ton argent, tu vois, à l'éditeur, t'es juste là en mode, bah, ouais, non, reprenez, c'est pas grave. Tout. Puis moi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai ça avec StarCraft, genre, je sais pas combien de fois je l'ai acheté, mais c'est pas possible, tu vois, aussi. Et justement, j'ai pas acheté la version HD en me disant, là, vous abusez, vous pourriez me la donner gratuitement. En me disant, je méritais au moins ça. Bon, du coup, je l'ai jamais eu. Mais c'est vrai que c'est un bon indicateur. Est-ce que ça t'est arrivé aussi avec d'autres jeux? Ou genre vraiment Skyrim, c'est genre le jeu que t'as acheté, racheté, racheté.
Ouais, je pensais vraiment Skyrim pour le coup. Et en plus, je suis assez regardant, je suis assez critique sur cette manière de faire en général. Mais vraiment Skyrim, ouais, d'un coup, oh là, j'ai envie de Skyrim. Puis tu sais, genre tu l'as déjà sur plein de consoles. Et puis je me dis, ah, mais sur la Switch quand même, ça peut être pas mal comme ça. Sur un petit écran, je pourrais jouer à Skyrim dans mon lit, tu vois. Mais je l'ai acheté, j'ai dû y jouer genre 10 minutes vraiment. Et ouais, c'est... Non, je pense Skyrim, c'est vraiment le seul... c'est vraiment le seul où j'ai fait ça, globalement, mais ouais, c'est, en plus, ça, ouais, à l'époque, ouais, il y avait, avec Bethesda, du coup, qui a développé Skyrim, c'était, j'étais très très fan, hein, du coup, quand j'ai découvert Skyrim, j'étais très très fan d'eux, j'étais très fan aussi de Fallout, où j'ai très très bons souvenirs dessus, mais, et ouais, c'était vraiment mon studio de cœur, donc bon, ça me posait pas trop de problèmes, de leur donner plein d'argent, puis voilà, c'est moins le cas aujourd'hui.
Mais ouais. C'est quand la dernière fois que tu as rejoué?
Ouais, je pense il y a pas longtemps. Hein. J'ai dû là sur la version. C'est quoi la dernière? Ils ont dû faire une anniversary édition où voilà ils ont ils ont un truc là, Creation Club, où il y avait des espèces de modes officiels quoi et qui étaient gratuits du coup avec cette édition. Il y a des armures en plus, des side quests, tout genre de trucs. Et du coup ouais, j'ai dû racheter ouais sur ma PS5, j'ai dû racheter cette édition là ouais encore à prix coûtant.
Est-ce que et la question qui vient après c'est est-ce que tu trouves que c'est un jeu qui a bien vieilli ou non?
Non, très mal. Très mal, ouais, très mal. Ouais, clairement, Skyrim, il a pris un vrai coup de vieux. Déjà, à l'époque, c'est vrai que... Enfin, moi, je l'ai su plus tard, hein, mais ouais, à l'époque, il était un petit peu critiqué pour ses graphismes, mais ouais, je trouve qu'il a pris un... Ouais, il a quand même pris un coup de vieux. Après, ça dépend de... Ouais, si on parle de simplement du visuel, ouais, ça a pris un vrai coup de vieux. Après, je saurais pas dire vraiment si t'as jamais joué à Skyrim et que tu joues maintenant, ça serait curieux de savoir quel est le genre d'expérience tu peux avoir si t'as déjà joué à d'autres trucs. Mais ouais, après voilà, c'est ouais, si t'es fan de RPG, y a pas de raison que t'aimes pas. Hein. Globalement, c'est quand même voilà, c'est des univers ultra riches où on t'emmène dans des quêtes ou voilà un petit événement comme ça, une petite side quest où tu vas parler avec un PNJ et que au final tu t'embarques dans une espèce d'aventure de ouf où tu vas rentrer dans une guilde d'assassins et puis voilà, tu vas partir aller tuer l'empereur de toute la contrée. Ouais, c'est vraiment tu peux vraiment poser ton cerveau et puis d'être guidé comme ça dans des événements absolument incroyables. Ouais, je pense que sur cette partie-là de l'expérience, je pense non, ça a pas tellement pris de ride globalement. Mais après, voilà, dans la manière dont, enfin, il y en a beaucoup qui sont basés dessus aussi. Après, c'est ça qui est intéressant,
ouais, c'est
qu'il y a plein d'open
genre,
world. Derrière, voilà, c'est devenu une référence. À part, il y a vraiment eu un avant et après Skyrim, quoi. Donc, maintenant, aujourd'hui, oui, c'est des formules qui sont vues et revues. La manière de construire un open world. Globalement, je pense qu'on en a eu un peu marre. Puis heureusement, maintenant, il y a une nouvelle vague d'open world qui est bien cool avec Breath of the Wild et puis plus récemment Elden Ring qui réinvente un peu la formule. Mais ouais, à l'époque, je pense que c'était révolutionnaire, ouais, effectivement.
Mmh. Moi, pour y avoir joué pour la première fois à Skyrim en 2018.
Ok.
Après, j'ai joué sur Switch, ce qui améliore pas du tout les graphismes.
Hein. c'est clair.
Déjà, ce qui est trop drôle, c'est que ce qui m'a frappé, c'est, alors, je sais plus exactement c'est quel jeu, mais on a, avec des potes, on avait joué à un mode où genre, tu devais aller tuer un mec, un dragon et tout, c'est avec le moteur graphique de Valve, en gros.
Ok.
Donc ça doit être, c'est soit Guys Mode, soit un Counter-Strike, mais ça m'étonnerait qu'on ait lancé un mode sur Counter-Strike, ou peut-être sur 1.6, un truc comme ça, je sais plus.
Okay.
Mais en tout cas, on avait lancé ça ensemble, puis on y avait joué, puis c'était très drôle parce qu'on était tous ensemble, etc. Et quand j'ai lancé Skyrim, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ce truc-là, parce que c'était les mêmes graphismes, et puis il y avait un dragon, puis je me suis dit, putain, ça se trouve, je m'embarque sur, ça faisait, en fait, du coup, ce qui était triste, c'est que ça faisait très mode créé par, je crois, le mode auquel j'avais joué, c'était vraiment un russe, tout seul, qui avait créé, genre, ce truc-là. Et du coup, ça, en termes d'image, tu vois, j'avais la même chose. Et donc, j'ai un peu bugué au début, je me suis dit, attends, c'est ça Skyrim, genre, pourquoi tout le monde en parle et tout?
Ouais.
Et donc, c'est sûr que, genre, je partais d'un a priori qui était un peu négatif. Après, ça, j'ai déjà expliqué 1000 fois, mais je me suis juste trouvé bloqué parce que j'arrêtais pas de me faire poursuivre par le forgeron ou sa femme.
je connais cette histoire.
Donc, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, en termes d'a priori, tu vois, au lancement du jeu, c'est vrai que je me suis pas dit, oh, wow, alors que, comme t'en as parlé, mais Dark Souls 3, même encore aujourd'hui, je le regarde le jeu et je me dis pas, ah, il est moche, tu vois.
Ouais, ouais.
Après, ils sont pas sortis à la même époque, là.
Oui, oui, d'accord. C'est sûr.
Mais en tout cas, j'en entends autant parler des deux. Donc c'est ça, genre j'ai fait un choix et après je me suis dit, ah bah en fait j'aurais peut-être dû faire un autre choix, mais bon.
Ouais.
Je jouerais peut-être à l'autre une autre fois.
Ok.
Et après tu parlais du fait que voilà tu l'as acheté plein de fois, etc. Est-ce que chaque partie tu la prenais avec une différente approche en termes de race, de guild et tout, ou tu répétais un peu la même chose?
Non, j'ai un problème. Ça, c'est un gros problème aussi chez moi, c'est que j'aime trop les gros guerriers en armure. Vraiment, c'est un problème, hein. Mais je le sais que c'est un problème, mais ça veut dire que tous les RPG que je fais, tout le temps, j'ai besoin de faire un gros personnage qui tape fort, qui est pas de magie. Tu vois, vraiment, j'ai un problème avec ça. Et Skyrim, bah, c'était vraiment le premier qui a suivi après une longue lignée de guerriers, quoi. Vraiment, mon gros orc, en armure lourde, arme à deux mains, quoi. C'est vraiment, c'est le premier personnage que j'ai créé. Et depuis, mais c'est une addiction, ce truc. Genre, vraiment, à chaque fois, j'étais obligé de refaire un orc, en armure lourde avec une grosse masse à deux mains, tu vois. Et c'est ça, et ça m'a suivi toutes mes parties. J'ai essayé d'autres trucs, tu vois. Je me suis dit, allez, je vais faire un assassin, machin. Ça me plaît 5 minutes, mais au bout d'un moment, dès que je vois, je drop une grosse armure de plate, un truc, je l'ai mis 50 fois, mais j'ai envie de la remettre. Ouais, non, j'ai vraiment un problème avec ça, ouais, globalement. Mes potes, d'ailleurs, qui jouent avec moi me le savent bien, mais c'est marrant comme phénomène aussi.
Je pense qu'on peut enchaîner et conclure avec ton troisième et dernier jeu.
Allez.
Qui était un peu dans le même style, du coup.
Ouais.
On part sur Dark Souls, donc jeu type action RPG développé par les Japonais de chez From Software et édité par Bandai Namco. C'est sorti en 2011, pareil sur PS3, 360, PC. Et il y a une version remasterisée qui est sortie récemment en 2018 sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Et bah pareil, c'est considéré comme un des jeux les plus influents de sa génération. Moi, n'y ayant pas joué, l'une des premières choses qui me vient en tête quand on dit Dark Souls, c'est vraiment le niveau de difficulté qui revient à chaque fois et c'est presque un running gag maintenant.
Ouais,
c'est quoi qui a été tes, ton ressenti lors de tes premières heures de jeu.
Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, vraiment, c'est ça. Genre, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est, ouais, bah, du coup, et, Dark Souls, c'est, je pense, c'est largement dans mon top 3, toute œuvre confondue. Hein. Vraiment, Dark Souls, ça m'a laissé, voilà, la Dark Souls, voilà, la marque maudite qui est dans le lore du jeu. Non, globalement, c'est, ouais, bah, comme je vous disais tout à l'heure quand on parlait de Skyrim, c'est, donc, septembre 2011, j'ai mon pote, du coup, qui a cette 360 chez lui, qui avait reçu le jeu, et puis on avait commencé à essayer d'y jouer, mais, bah, globalement, si tu commences Skyrim, t'es dans une, dans un espèce d'asile des morts vivants, où t'es enfermé dans une cellule, tu commences, et puis tout de suite, le jeu te met un énorme boss, qui te défonce. Et en fait, il ne faut pas l'affronter, et au fond, il y a une petite porte dans laquelle tu dois passer.
Tu dois t'enfuir, ouais.
Tu dois t'enfuir, en fait. Et du coup, on était là, mais du coup, globalement, on a dû passer des semaines à se dire, mais. C'est quoi ce jeu? Genre c'est quoi ce jeu? Donc on était avec mon pote et du coup on a lâché un peu le truc, y a Skyrim qui est arrivé, on a joué à plein de trucs, puis à un moment on s'y est remis, et puis voilà, comme on a kiffé tous les deux les RPG, la fantasy, etc., on s'y est bien remis, et là si tu veux, du coup bah on a commencé à regarder un petit peu des trucs, on dit ah ouais, il fallait passer au fond et tout, on s'est dit ah mais c'est génial, et puis effectivement bah ça a été une expérience hyper marrante, parce que du coup bah on jouait à deux en fait sur la console de mon pote, et on a fait toute l'aventure en fait à deux, où dès qu'on en avait marre, comme c'est un jeu bah qui est assez rageant parfois, on passait la manette à l'autre, et du coup l'autre regardait, et du coup on faisait des sessions comme ça, des après-mentières à jouer à Dark Souls, ça se passait à la manette, dès qu'on mourait deux trois fois on en avait marre, on passait à la manette, et du coup on a fait tout le jeu comme ça. On a fait Dark Souls 2 aussi pareil, de la même manière, quand c'est sorti, et du coup c'est une expérience totalement différente, parce que vraiment le propos derrière Skyrim, enfin le propos, les grands thèmes qui sont abordés, c'est quand même la mort, la solitude, et de vraiment voilà de mettre le joueur face à l'adversité, et qui est des voilà des grosses épreuves à surmonter, et qui puisse avancer comme ça. Et du coup ouais, c'est une expérience complètement différente de jouer vraiment à deux comme ça. Y a un mode en ligne, mais qui est très difficilement accessible, où tu dois aller récupérer des items dans le jeu pour pouvoir invoquer un pote, enfin du coup tout est justifié si tu veux dans le monde, même des mécaniques comme ça qui sont des mécaniques de multijoueur quoi. Du coup c'est assez incroyable. Et ouais, ce jeu, pareil, j'aurais pas trop quoi dire, mais c'est vraiment ouais, ça m'a marqué, ouais, tout est, enfin là encore une fois la musique incroyable. En fait, je pense qu'il faut, pour bien comprendre ce qu'est Skyrim, faut bien comprendre Dark qui Souls, est le, ouais, pardon, Dark Souls, excuse-moi, faut bien comprendre ce qu'est Dark Souls, c'est, faut bien comprendre, enfin, faut connaître, je pense, un peu l'histoire de son auteur, du coup, qui est Hidetaka Miyazaki. Et donc Hidetaka Miyazaki, aujourd'hui c'est le président de From Software, mais c'est vraiment un mec qui est parti de rien, genre. C'est vraiment un gars, à la base, il est né dans une famille hyper pauvre au Japon, et le gars voilà, il a pas trop de grosses ambitions, même lui il dira qu'il est né, il a grandi vraiment dans une extrême pauvreté, et du coup pas de grandes ambitions, il fait son école, etc., il fait ses études un peu comme ses parents voulaient, ses parents lui interdisent les jeux vidéo, du coup il essaye de un peu avec des potes, il joue un petit peu à Donjons et Dragons, il lit des livres genre les livres dont vous êtes le héros, ce genre de truc où vraiment il va commencer à se nourrir un peu de ces trucs là et puis il va se trouver un poste de développeur chez Oracle au Japon. Et à l'époque, c'est vraiment le début des jeux vidéo, From Software existe déjà, et il a un pote à lui qui est chef From Software, il lui dit « Ah ouais, il y a un petit poste de développeur, on recrute et tout, viens », et puis du coup il a tout plaqué, il est là-bas, et le mec s'est clairement imposé comme vraiment un esprit créatif hyper affûté quoi, et du coup il a monté en gamme. Aujourd'hui il a d'abord fait Demon's Souls, du coup, qui est le prédécesseur de Dark Souls, qui a été un moyen succès, mais parce qu'il a été publié que au Japon, je crois, à l'époque, en tout cas pas en Europe. Et après Dark Souls, où là déjà, qui a été publié cette fois en Europe, aux États-Unis, etc. Où là, c'est déjà un meilleur succès. Puis après, Dark Souls 2, puis après Dark Souls 3, et aujourd'hui Elden Ring. Enfin, alors, il y a eu Bloodborne et Sekiro aussi, dont il est l'auteur. Mais ouais, globalement, c'est un grand monsieur. Et puis on sent vraiment, c'est ça que moi je trouve hyper intéressant dans ses œuvres. Et puis c'est pareil pour Wind Waker, dont on parlait avant, ou toutes ces grandes licences qui sont des licences en général japonaises, où j'ai l'impression, après c'est peut-être une impression et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression vraiment, c'est une manière de développer des jeux qui sont complètement différentes, où vraiment on va construire le jeu vraiment autour de la vision créative d'une personne. Et tu vas vraiment avoir une personne qui va porter le projet, et par exemple, si on parle d'Hideo Kojima, par exemple, qui va vraiment être là à toutes les étapes du développement, qui va avoir un avis sur tout, qui va, par exemple, si on regarde comment il a développé Death Stranding, c'est exactement ça, il a vraiment touché à tout. Et là où j'ai l'impression, dans les studios, dans les structures un peu plus traditionnelles, comme on retrouve aux États-Unis ou en Europe, enfin, en tout cas en Occident, où voilà, c'est une équipe qui va porter un projet, qui va développer un projet, et voilà, c'est le travail de toute une équipe. Des jeux, voilà, comme Dark Souls, ce qui a été fait avec Zelda, etc. C'est aussi toute une équipe. Mais il y a vraiment quelqu'un qui va être à l'origine du projet, où on va vraiment écouter cette personne-là. Il va vraiment avoir un avis sur, voilà, sur tous les aspects, que ce soit la musique, les animations, la programmation, le gameplay. Vraiment, il est là à toutes les étapes de conception. Et du coup, ça fait quelque chose de très singulier, où vraiment, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne, qu'on ressent vraiment, il y a vraiment une cohérence dans le propos, quelque chose vraiment d'unique, de très authentique, où vraiment, moi, ça me touche. Vraiment, c'est quelque chose qui va me toucher directement, où vraiment, j'ai l'impression, voilà, on délivre une œuvre qui est d'un monsieur, et ça, c'est, ça m'a vachement touché, en tout cas, avec Dark Souls, puis du coup, plein d'autres œuvres, plutôt au Japon. Et du coup, désolé, hein, je pars un peu dans tous les sens. Dark Souls, ce que tu disais au tout début, là, du coup, ouais, la difficulté, ouais, effectivement, c'est un jeu qui est assez exigeant, mais voilà, beaucoup de joueurs des Souls te diront que faut juste s'y mettre, et puis une fois que t'as compris un petit peu comment ça fonctionne, normalement ça va, mais après, c'est faut être patient, quoi. Faut bien s'armer, mais c'est ça, en fait. C'est ça, si tu veux, c'est ça le propos du jeu. C'est pas juste de la difficulté pour la difficulté, où t'as juste un ennemi qui a beaucoup trop de PV et tu fais pas assez de dégâts, quoi. C'est pas cette difficulté-là. C'est vraiment, la difficulté déjà dans d'avancer, de savoir où est-ce qu'il faut aller. Là, t'as pas de journal de quête, t'as pas de carte, tu dois juste, t'as un mec qui dit une phrase, mais c'est impossible de rejouer le dialogue, genre, faut avoir retenu le truc, ou faut aller lire des descriptions d'objets, pour savoir où est-ce que tu vas aller. Le level design, il t'aide plus ou moins, mais en même temps, il te trompe, parce que il te donne accès à des zones qui sont beaucoup plus tard, que tu dois aller beaucoup plus tard dans le jeu. Et donc, voilà, tu dois tout, vraiment t'approprier le monde, vraiment comprendre comment avancer. Et puis, déjà par rapport à ça, et puis après, ouais, par rapport à l'histoire aussi, qui est difficilement perceptible, où faut vraiment essayer de recoller tous les bouts, justement, aller parler à des PNJ cachés, lire pas mal de descriptions d'objets, et ça, moi, comme je disais avant, où j'ai vraiment ce profil vachement d'érudition, quoi, dans les jeux, où vraiment j'adore creuser un lore et tout, moi, ça a été complètement, ça m'a totalement plu, et je me suis dit, ok, ça, c'est trop bien, la manière dont c'est parfait, écrit, etc. Et du coup, ça rejoint juste ce que je disais avant, où est-ce que, justement, si c'était le travail d'une équipe complète de conception, où c'était plusieurs directeurs, qui sont, et puis une équipe de game designers, etc., qui vont vraiment concevoir le jeu, dire, OK, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on serait arrivé à des idées comme ça, aussi originales, de se dire, on fait pas le lore, on l'explique pas, on va juste aller foutre des descriptions d'objets, des petites quotelines de personnages ou de boss, etc. Et je trouve que c'est vraiment des idées hyper singulières et qui est vraiment le fruit de l'esprit d'une personne.
On va arriver là déjà sur les questions de la fin.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire les jeux auxquels tu joues en ce moment, s'il y en a?
L'unique. Le seul, l'unique. Ouais, mais en ce moment là, ça faisait longtemps. Bah justement, bah ça, ouais, je voulais en parler un peu aussi, qui était le fait que bah au moment où tu passes un peu développeur, bah tu joues plus de la même manière. Et ça, c'est vraiment un gros travail à faire, parce que sinon tu perds, enfin tu gâches toutes tes expériences en fait. Et ou vraiment, bah voilà, t'es dans l'analyse pure où tu dis ah bah ok, les mecs ils ont fait ça comme ça, ils ont fait ci comme ça. Et du coup, faut, ouais, j'ai vraiment, au début vraiment j'étais ça, et puis je me suis gâché des expériences vraiment en jouant comme de cette manière-là. Du coup, j'ai vraiment appris à essayer de vraiment, voilà, tu rentres dans l'expérience et puis tu essayes de pas analyser, ou alors tu sais, c'est, enfin, il y a des mecs qui ont développé cette théorie-là où justement il faut justement faire des espèces de micro décrochages où tu vas te dire, tu vas analyser un truc 10 secondes, puis après tu vas te remettre dedans, tu vas couper, tu vas pas repartir sur une pensée à développer. Mais enfin bref, c'est ouais, du coup j'arrivais plus à jouer à grand-chose là ces derniers temps. Je sais pas, du coup forcément je suis passé beaucoup sur les jeux en ligne où voilà, tu lances une partie, tu te déconnectes, enfin tu poses ton cerveau, tu fais ta partie, tu joues genre un Battlefield, un truc, puis
Moins
ça
engageant, quoi.
fonctionne bien. Et ouais, c'est ça. Et du coup, j'arrivais plus trop à me lancer dans des deux, genre récemment j'avais acheté Deathloop, j'avais acheté Kena, enfin tous ces trucs-là, j'ai pas réussi. Pourtant les jeux sont absolument incroyables, vraiment je reconnais tout le génie du truc, mais ouais, j'arrive pas, j'y joue 30 minutes puis j'arrive pas vraiment. Et du coup ouais, Elden Ring, bah punaise, ouais, c'est ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas réussi vraiment à me plonger là. Vraiment je me redécouvre, vraiment, bah quand je découvrais par exemple Skyrim ou Wind Waker ou Dark Souls, où vraiment là j'ai trop envie de digérer le truc, genre vraiment de, ouais, d'explorer, vraiment d'aller au bout du truc, de prendre mon temps, vraiment de m'immerger complètement et de m'imprégner de tout l'univers, quoi. Et ouais, du coup, ça faisait bien longtemps, ouais, que j'avais pas ressenti ce sentiment. Donc ouais, en ce moment, c'est l'addiction la plus totale pour Elden Ring. Ouais, un chef-d'œuvre, vraiment grand
Après, c'est
chef-d'œuvre.
compréhensible. Déjà, le jeu est incroyable et j'ai l'impression aussi que tu as cet attachement à Hideaka Miyazaki,
Ouais,
ce qui fait
tout à fait.
que, en plus,
Ouais.
le fait de le suivre et de
Ouais,
voir
moi je suis parti pris, totalement.
que bah, là, il a réussi à offrir le jeu presque parfait avec les expériences du passé en
Ouais.
modifiant ce qu'il a appris en chemin et tout. Donc, ouais,
Puis en
c'est
s'inspirant
compréhensible.
de grands comme bah, Breath of the Wild, pour moi, il a vraiment repris tout ce qu'il fallait reprendre de Breath of the Wild, mais vraiment en le mettant à sa sauce et du coup en rajoutant ce qui allait pas. Enfin, en tout cas, moi je trouve en tant que joueur, par exemple, bah, Breath of the Wild, ce qui a été pas mal critiqué, voilà, c'est tout le système d'épreuves où bah du coup il y a plus de donjons, qui était quelque chose d'assez traditionnel
Dans Zelda,
dans les Zelda. Et là, bah voilà, là t'as un Breath of the Wild, mais voilà, là, avec des vrais donjons à chaque fois qui sont différents, avec des, tu sais jamais ce qui va t'attendre à la fin, avec des récompenses, des machins. Et ouais, Elden Ring, c'est ouais, là, pour le coup, là on parlait de monde organique, mais alors là c'est puissance, enfin je pense que ça a jamais été fait à ce niveau-là avant ça. Et puis ouais, voilà, bah coécrit par George Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui a, bon, il a participé assez brièvement, si tu veux, à la structuration du monde. Et après Hidetaka Miyazaki, il est venu avec son équipe et ils ont commencé à écrire le scénario à partir de, si tu veux, ces grands thèmes généraux et cette espèce de mythologie, quoi. Il a créé une mythologie en gros, globalement, George Martin. C'est après, ils sont inspirés de ça. Et si tu veux, quand ça avait leaké, avant qu'il fasse la bande-annonce, ça avait leaké qu'il y avait peut-être quelque chose avec Hidetaka Miyazaki et George Martin. Moi, j'étais là, non, mais qu'est-ce que vous me racontez là? C'est pas possible. Puis après, quand il y a eu le trailer, j'étais là, non, sérieux. Et du coup, là, je suis complètement à fond dedans. Ouais, l'histoire, bah là, moi qui vraiment adore explorer des lores, là, l'univers, il est incroyable. Vraiment, je suis plongé totalement dedans. Je suis là. Du coup, un très bon pote à moi, voilà, qui est très fan aussi des Souls. On se dit, ouais, tu vois, ça, ce personnage-là, en fait, c'est le demi-frère de lui et tout, mais c'est incroyable. Du coup, quand ils ont fait le combat, ils ont fait un combat entre demi-dieu et demi-frère, c'est incroyable. Enfin, ouais, voilà, c'est trop plein de trucs. Et du coup, après, tu te bouffes des reviews de mecs qui expliquent tout le lore, tous les machins. C'est, ouais, c'est hyper enrichissant, clairement. Je kiffe ça.
On n'a pas fini d'en entendre parler, quoi.
Ah, c'est clair. C'est clair.
Bah, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin avant qu'on se quitte?
Ouais, Ouais, je sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, déjà, bah, merci à vous parce que c'est un plaisir d'avoir fait cet épisode avec vous. Et
Merci à
puis,
toi.
ouais, bah, faut continuer à jouer. Je pense qu'il y a, là, on arrive à un tournant pour le jeu vidéo où effectivement, avec toutes ces questions d'ultra immersion de plus en plus présentes, voilà, je pense qu'on va arriver sur des œuvres qui sont assez complexes et du coup ouais, faut suivre ça de près et je pense qu'on n'est pas au bout de toutes ces surprises qui vont arriver petit à petit voilà.
Parfait.
Merci à toi en tout cas.
Merci beaucoup
Bah,
Clément.
merci.
Et on se dit à bientôt.
Merci à vous. Ouais, salut.
Ciao. C'était Du temps et des jeux. Musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine.